Messieurs, dames, bonsoir. Vous êtes en direct sur le studio Kalangou. Il est 18h. Le point sur l'actualité nationale en français, c'est tout de suite. Voici les titres. Célébration ce jour 22 mars de la journée mondiale de l'eau sous le thème « La réponse est dans la nature ». Nous verrons l'importance de cette thématique au Niger dans ce journal. Poursuite du redéploiement des enseignants à l'intérieur du pays par le ministère de l'enseignement primaire. La situation tout de suite avec le directeur des ressources humaines de ce ministère. Enfin, la partie magazine de ce journal sera consacrée au litige qui oppose un commerçant et des femmes âgées revendeuses de Moringa au marché de Dar es Salaam de Niamey. Une situation qui a amené les autorités communales à démolir les boutiques du commerçant. Djalou Mariama Kenda au micro, bienvenue à tous. La réponse est dans la nature, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale de l'eau. Quelle est l'importance de ce thème pour le Niger? Écoutons le président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, Régéa Ousmane Dambaji au micro de Rukayatou Abdourahman.
L'eau est au cœur du développement. C'est dans ce sens qu'il est important de dire aux gens comment est-ce qu'on peut préserver l'eau pour la boisson et l'eau également pour les travaux d'intérêt commun, naturellement l'énergie et autres. Expliquer également aux participants les enjeux liés à l'eau, surtout dans le contexte du changement climatique. Le thème de cette année, c'est pour vous dire que la nature a transformé effectivement notre environnement et il va falloir que nous trouvions la solution dans la nature pour pouvoir effectivement remettre les choses en place. C'est une occasion pour que les Nigériens comprennent les efforts consentis par l'État dans le secteur de l'eau, mais également et tout ce que les journalistes et les acteurs de la société civile sont en train de faire pour accompagner l'État. Voilà justement pourquoi le thème est aussi important pour notre pays qui est en voie de développement, un pays qui, nous sortons d'hier de la conférence de Paris qui nous a permis de mobiliser 23 milliards de dollars dont la moitié va directement dans la protection des eaux, dans l'eau, l'hygiène et l'assainissement.
C'était le président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, Régéa Ousmane Dambaji. Forêt et ville durable, c'est le thème retenu pour la célébration de la journée internationale des forêts hier. Au Niger, les actions de l'homme et le changement climatique contribuent à la destruction de la végétation. Selon Yacouba Seydou, directeur de la gestion durable des terres, des actions de récupération des terres suivies de plantations sont en train d'être menées au plan national. L'objectif est de récupérer plus de 200 000 hectares par an. Qu'appelle-t-on forêt? Quelle est la situation des végétations forestières ici au Niger? Réponse avec Yacouba Seibou.
Dès que vous avez des arbres, des arbustes et d'autres végétaux non agricoles, vous avez affaire donc à une forêt. On a des forêts, mais c'est vrai que ça ne ressemble pas au type de forêt que vous allez voir en Côte d'Ivoire ou au Brésil. Les forêts sont soumises véritablement à de multiples pressions. L'une des pressions, c'est l'exploitation à des fins de bois de cuisson. Une situation de 2012 nous indique que déjà nous sommes dans une situation très critique. C'est-à-dire que la demande des passe aujourd'hui largement l'offre. Donc, il va falloir adopter des comportements nouveaux en termes d'efforts en matière de reboisement, en matière de protection de la régénération naturelle assistée, d'efforts aussi en termes d'utilisation d'énergie alternative. Ça peut soulager un peu les formations forestières. Les forêts, c'est des puits de carbone aussi. Lorsqu'il y a de la végétation, le cycle du carbone est bien maîtrisé et donc vous avez suffisamment d'oxygène aussi à disposition des communautés locales.
Propos recueillis par Raïla Toussoumana. Lors de son interpellation par l'Assemblée nationale samedi dernier, le ministre de l'enseignement primaire Daouda Mamadou Marté a déclaré que les redéploiements des enseignants à l'intérieur du pays se poursuivent. Ceux qui refusent de s'y conformer seront considérés comme démissionnaires dès le lundi 19 mars. Le ministre est-il passé de l'acte à la parole? Notre reporter Omar Rama s'est entretenu avec Achana Hima, directeur des ressources humaines au ministère de l'enseignement primaire.
C'est une décision en fait qui est conforme un peu à la réglementation. Il ne s'agit pas d'une décision nouvelle, il s'agit simplement de rappeler ce que les dispositions disent, que le refus de regagner sa première affectation est une cause de résiliation des contrats. Donc pour les contractuels, on a procédé à la résiliation de leur contrat. Pour les fonctionnaires, nous allons les suspendre leur salaire et les traduire en conseil de discipline. Donc affirmatif, ce que le ministre a annoncé est effectivement mis en application à 100%. Parce qu'il y a deux procédures différentes. Ceux qui n'ont pas rejoint en fait leur poste, donc vont voir dans les états avec des paiements qui sont entre leur nom supprimé, donc ils vont notifier la réalisation de leur contrat. C'est déjà fait, les situations nous sont remontées donc déjà. Maintenant, la procédure se fait à travers ce qu'on appelle le conseil de discipline vers la fonction publique. Nous sommes dans la phase de l'application. Ils ne sont pas quand même très nombreux, ils sont à peine une centaine pour l'ensemble des régions.
Achana Hima, directeur des ressources humaines au ministère de l'enseignement primaire, rencontre hier à Agadez pour la validation du plan d'action du modèle d'école en milieu nomade à l'initiative du groupe thématique éducation de la direction régionale de l'enseignement primaire d'Agadez avec l'appui du SDS Sahel. Enchirouak Mariam, directrice adjointe de l'enseignement primaire, explique le contexte d'élaboration du plan d'action au micro de Moussa Mamane.
On a constaté que les écoles des enfants des pasteurs est vraiment menacée. La plupart des enfants n'arrivent pas à achever leur scolarité. Parfois, on dit c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure d'accueil. Les écoles nomades sans dortoir, sans cantine. Parfois, les enseignants s'absentent. Et quand un enseignant s'absente, il fait 2 semaines, il n'est pas là. Les enfants des campements environnants, ils retournent chez leurs parents. Et pour les retrouver, c'est un problème. Et ça, c'est quand il y a des enseignants. Et quand il n'y a même pas des enseignants. Parce qu'autour de puis, il n'y a que l'école. Et c'est difficile pour les femmes. Vous savez, sur les 3000 que nous avons, 2700 sont des femmes. On est en train de travailler pour que le puits soit occupé afin de permettre aux enseignants qui sont déterminés à enseigner d'aller. Nous avons les déficits fourragers qui est de plus en plus menaçant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces enfants n'auront pas la chance de finir leur scolarité, d'avoir la certification comme les autres enfants. Juste parce qu'il n'y a pas des infrastructures. Juste parce que peut-être on n'a pas été regardant.
Propos recueillis par Moussa Mamane. Ces derniers jours, les ministères de l'enseignement primaire et secondaire ont attribué des matricules à plusieurs centaines d'enseignants. Parmi ces nouveaux bénéficiaires de matricules, 351 enseignants de l'enseignement primaire. Plus de détails avec Attaher Sabra, premier secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants du Niger au micro d'Alassane Kouzi Mahamadou.
Ces gens-là attendaient leur matricule depuis 2012 et 2013. Aujourd'hui, 351 enseignants ont eu leur matricule et nous attendons incessamment leur mise en solde. À part cela, nous avons 485 enseignants diplômés du 2APCEG qui vont avoir aussi leur matricule incessamment. À part cela, nous avons 84 camarades qui devaient avoir leur matricule. Eux aussi, ils vont avoir leur matricule avec ceux-là du 2APCEG. Un autre point très important, vous savez, nous avons des camarades qui ont fait 10 ans d'enseignement, 7 ans, 8 ans d'enseignement. Au moment où ils devaient être recrutés, il se trouve qu'ils ont un âge supérieur à 45 ans. Et ces camarades-là se trouvent dans le cadre du dépassement d'âge. Le gouvernement était d'accord pour les recenser et leur donner aussi leur matricule. D'ores et déjà, nous avons deux enseignantes femmes qui ont plus de 45 ans qui sont actuellement recrutées à la fonction publique avec un matricule.
Propos recueillis par Alassane Kouzi Mahamadou. Le mot d'ordre de grève illimitée du syndicat des enseignants de l'université de Niamey a été levé le lundi dernier. Le SNEX a trouvé satisfaction, notamment à travers un arrêté qui délimite les franchises universitaires. Dr Mahamane Kabir, secrétaire général du SNEX section Niamey, au micro de Habibou Garba.
La plupart de nos points de revendication ont trouvé un début de solution.
La CASO, nous, ce qu'on a demandé, c'est quoi? L'interdiction. Alors, l'interdiction, il y a plusieurs façons d'interdire. Ce qu'a fait le recteur, il a pris un arrêté pour délimiter les territoires des franchises. Donc, laissez-nous est un établissement à part entière, qui ne dépend pas de l'université. Et bien, laissez-nous, c'est quoi? C'est les magasins, il y a les restaurants et il y a les dortoirs. Donc, ils ne sont pas couverts par les franchises universitaires. Parce qu'en réalité, l'erreur que même les étudiants font, croyant que, par exemple, comme ils sont couverts par les franchises, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, les forces publiques ne vont même pas intervenir. Donc, en fait, l'information capitale, c'est quoi? Il faut qu'ils comprennent une chose. La cité et les restaurants sont en fait accessibles aux forces de l'ordre à tout moment. Donc, il faut que les gens se mettent ça en tête déjà. Et bien, ça montre déjà que si la CASO utilise ça comme refuge, il faut déjà qu'ils comprennent qu'en fait, ce n'est plus un endroit si sûr que ça pour eux.
Une nouvelle vague de migrants a été refoulée d'Algérie. Ils sont arrivés à Agadez samedi dernier, venus à bord de 24 camions. Ces hommes, femmes et enfants de différentes nationalités ont été provisoirement installés sur un site avant d'être acheminés dans leur localité d'origine respective. Notre correspondant, Anissé Karim, était sur place. Voici son reportage.
Ils sont au total 657 personnes, dont 646 Nigériens, en majorité de la région des Andes, et 11 de nationalité étrangères, du Nigeria, du Sénégal, du Mali et de la Guinée-Bissau. Pour se refouler, aucun souci majeur, le voyage s'est bien déroulé. De l'Algérie, nous sommes bien rentrés au Niger. On était bien traités, nos bagages étaient intacts. Nous et nos familles sommes bien rentrés. Personne n'a eu de problème. Nous avions fait un bon voyage. Une fois sur le site d'accueil, ces rapatriés reçoivent une assistance particulière, confirme Issoufou Boubacar, membre du comité chargé de gestion des rapatriés.
Il y a la prise en charge, restauration et recensement de tous ceux qui viennent sur le site. Nous avons aussi des partenaires qui les appuient, des kits pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants. Les partenaires viennent en aide sur le plan santé, psychosocial. Donc, quand les rapatriés viennent, certains sont dans des situations où il faut essayer de les calmer, les rassurer. Les partenaires, entre autres, nous avons le Médecin du Monde, l'OIM, l'IRC, qui nous viennent en aide.
Un appel fut lancé par ces refoulés à l'endroit du gouvernement pour qu'ils créent les conditions nécessaires afin que ceux-ci puissent rester chez eux et mener des activités génératrices de revenus. Anissé Karim pour le studio Kalangou.
L'accord prévoyant la mise en place d'une zone de libre-échange continental ZEC a été signé hier 21 mars 2018 lors de la cérémonie de clôture du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali au Rwanda. Après Addis Abeba en 1963, Abuja en 1991, Durban en 2002, Kigali marque une nouvelle étape dans la marche vers une intégration plus dynamique des États membres de la ZLEC. Gungun Mandantani.
Selon une dépêche de l'agence France-Presse AFP, 44 pays africains ont signé hier, 21 mars 2018 à Kigali, l'accord créant une zone de libre-échange continentale ZELEC, a déclaré le président de la commission de l'UIA, Moussa Faki, en conclusion d'un sommet de l'organisation dans la capitale rwandaise. Le Nigeria, l'une des premières économies du continent, est le principal pays à s'être abstenu. Le président nigérien Muhammadu Buhari avait décidé de ne pas faire le déplacement de Kigali après avoir accepté de donner plus de temps aux consultations dans son pays où l'accord suscite une certaine opposition. Toujours selon l'AFP, le commissaire de l'UIA chargé du commerce et de l'industrie, Albert Mouchanga, a déclaré que certains pays ont des réserves et n'ont pas encore finalisé leurs consultations à l'échelle nationale, mais qu'un autre sommet aura lieu en Mauritanie en juillet avec l'espoir de voir les pays ayant des réserves signer le document. L'UIA estime que l'élimination progressive des droits de douane entre membres de la ZELEC permettra d'augmenter de 60% d'ici à 2022, le niveau de commerce intra-africain.
La partie magazine de ce journal à présent consacrée au litige qu'oppose un commerçant et des femmes âgées revendeuses de Moringa au marché d'Araslam de Niamey, une situation qui a amené les autorités communales à démolir les boutiques du commerçant.
En réalité, c'est un litige qui oppose un monsieur avec des vendeuses de Moringa. C'est un litige qui a duré depuis le temps où le goudron boulevard Tanimon était en chantier. Le monsieur en question, il est voisin aux vendeuses de Moringa. Elles sont en face du goudron et lui, il leur fait dos. Donc, quand on a fait la répartition, initialement, il avait 6 places. Ça veut dire, avec la nouvelle répartition, on va faire les 6 places multipliées par 3. Donc, ça va lui faire 18 mètres carrés. Lorsque nous avons tenu les réunions, on avait convoqué toutes les parties, lui le monsieur en question, toutes les vendeuses de Moringa, les délégués du marché, le gérant du marché, le directeur des équipements marchands de la ville, l'huissier. On a tenu 3, 4 jusqu'à 5 réunions avec des visites sur le terrain pour trouver vraiment une issue favorable sans pour autant qu'il y ait du bruit comme ce qui se passe aujourd'hui. Mais très malheureusement, on était confronté à un retour négatif de la part de ce monsieur qui, à chaque fois, quand on fait les réunions, il refuse d'accepter les conclusions. Parce qu'il dit qu'il va s'en tenir à ces places qu'il avait initialement. Et ces places-là que le monsieur occupe aujourd'hui font 48 mètres carrés. Pour quelqu'un qui est censé avoir 18 mètres carrés. et on a pris la décision, on lui a envoyé une dernière mise en demeure. Une mise en demeure, on lui a donné la dernière, on devait normalement enlever ses kiosques le lundi matin. Et je tiens à préciser quelque chose qui est très important dans cette affaire-là, c'est que ce monsieur-là, il ne paye aucune taxe. Il occupe 48 mètres carrés du domaine public. Ce marché est en gérance libre. Mieux encore, c'est des boutiques que lui-même n'occupe pas, mais qu'il met en location. Il récupère le loyer chaque fin du mois. On était même arrivé à la conclusion que, puisqu'il veut garder les 48 mètres carrés, on dit qu'il n'a qu'à payer. Le mètre carré fait 5 000 francs, on lui fait 48 mètres carrés multiplié par les 5 000 francs. J'ai dit, nous, au niveau de la municipalité, on va s'engager à trouver d'autres places pour ces vieilles dames-là et les recaser. Sur ça aussi, il n'est pas preneur. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. À un moment donné, il faut qu'on mette de l'ordre. Et je ne pense pas que nous avons agi en mal ou bien qu'on est rentré dans ses droits. Tout ce que nous avons fait, c'est de remettre certaines vieilles dames dans leurs droits en leur dotant de ce qui leur appartenait depuis. Quelque chose qu'on a dû leur arracher de force.
C'était Munkaila Ali Matou, délégué spécial commune 2, au micro de Moutari Mamadou, fin de ce journal.